Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats, de points de vue. C'est votre 18-20 et ça reste ouvert tout l'été. Dans une poignée de secondes, le journal à la une ce soir, Clarisse Agbenenou, une Française en or, c'est la belle nouvelle de ce mardi. Dans 20 minutes, on va parler passe sanitaire, liberté individuelle, vaccination, acte citoyen, mais pas que. Avec le philosophe Michel Onfray, il vient de publier L'art d'être français aux éditions Bouquin. 18h30, le débat des grandes voix, on va analyser, décortiquer les chiffres du chômage, une baisse, certes, mais en trompe-l'œil ou pas. Et puis on va regarder aussi les conséquences économiques de ce pass sanitaire en vigueur maintenant depuis presque une semaine. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. Comment vont les soignants? Comment va l'hôpital? Il y a eu la pandémie, nos applaudissements, le Ségur de la santé. Est-ce que les choses ont bougé? 39-21, vous êtes concerné, vous êtes médecin, vous êtes soignant. Vous prenez la parole bien sûr, 39-21. Mais avant cela, toute info de ce mardi 27 juillet avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
J'ai cette médaille enfin! J'y crois pas! J'ai même pas les mots! J'ai pas les mots!
Elle est aujourd'hui une femme en or, la Française Clarisse Agbenenou a été sacrée championne olympique de judo dans la catégorie des moins de 63 kilos.
La pression hospitalière qui se fait de plus en plus ressentir, le gouvernement continue la course contre le Covid-19 et met un nouveau coup de pression sur la vaccination.
Une embellie sur le front de l'emploi, deuxième trimestre de baisse significative du chômage, ce sont les demandeurs d'emploi qui n'avaient aucune activité qui ont le plus retrouvé un travail.
Nice est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La célèbre Cité des Anges est désormais une référence mondiale du tourisme. Pour en parler, la directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz, sera notre invitée.
La Bourse de Paris, le CAC 40 termine ce soir dans le rouge, moins 0,71% à 6531 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, encore des averses dans le nord du pays. Demain, moins nombreuses qu'aujourd'hui a priori. Et puis d'autres averses orageuses vont remonter d'Espagne ce soir et cette nuit. Elles circuleront du sud-ouest à l'Auvergne avant de s'évacuer par les Alpes.
A tout à l'heure Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la belle nouvelle du jour. Deux médailles de plus pour la France aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Oui, du bronze en taekwondo, mais surtout de l'or en judo. Clarisse Agbenenou est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 63 kilos. Une victoire aux airs de revanche, Simon Rubin.
Et oui, puisqu'en finale, Agbenenou a battu la Slovène Tina Terchteniak, celle-là même qu'il avait battue en finale, qu'il avait privée de l'or à Rio en 2016. Et Clarisse Agbenenou nous l'avait annoncé hein, depuis des mois, des années même. Elle venait à Tokyo pour l'or et pour rien d'autre. Et c'est sans doute en cela que sa victoire est d'autant plus impressionnante. Pendant 5 ans, elle s'est préparée, ne pensant qu'à une chose, chaque jour à l'entraînement. On comprend mieux l'émotion folle qui a débordé à peine le combat fini. Clarisse Agbenenou qui enlace son adversaire, qui pleure dans ses bras, qui la porte en triomphe. Et il y a quelques instants, la nouvelle médaillée d'or a publié un message à ses supporters. Elle était encore très émue.
Vous êtes prêts ? Elle est là! Je suis tellement heureuse, tellement fière et je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos encouragements. Je suis tellement heureuse et je fais des bisous parce que je l'aime déjà. Je suis tellement fière, j'espère que ça a été pour vous, que vos cœurs ont tenu, que vos larmes n'ont pas trop coulé. Mais je tiens vraiment à vous remercier et j'ai hâte de rentrer à Paris pour fêter ça avec vous.
Clarisse Agbenenou qui fait des bisous à sa médaille d'or, la deuxième médaille d'or donc pour la France. À cela, il faut ajouter le bronze d'Althea Lorrain, médaillée de bronze en taekwondo pour ses premiers Jeux à seulement 19 ans. Alors Althea Lorrain, elle s'est mise au taekwondo par erreur. À l'âge de 7 ans, en fait, elle s'était mise dans la file d'attente pour s'inscrire en sport, en l'occurrence au karaté. Mais elle s'est trompée de file et elle s'est retrouvée comme ça à l'âge de 7 ans à faire du taekwondo. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Une médaille olympique. Ce soir, la France est 9e au classement avec 7 médailles, dont 2 en or. Un bilan qui est assez similaire à celui de Rio 2016 au même stade de la compétition.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Le gouvernement met un nouveau coup de pression pour que les Français soient vaccinés au plus vite. La France devrait franchir dans les prochaines heures 50% de sa population totalement vaccinée.
Un demi-million de rendez-vous sont disponibles dans toute la France pour se faire vacciner. C'est ce qu'a martelé ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était sur le terrain aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris. Alors que nous sommes dans la 4e vague, il a rappelé que la pression hospitalière restait forte.
Ce que nous pouvons constater en France, c'est malgré tout une poursuite de l'épidémie avec une augmentation du nombre de cas d'une semaine sur l'autre. L'augmentation, vous l'avez peut-être vu, semble avoir ralenti, mais enfin c'est depuis 48 heures. Ça ne suffit absolument pas pour pouvoir dire que l'épidémie ou le pic serait derrière nous, loin s'en faut. Donc nous avons besoin au jour le jour de regarder les données, le nombre de contaminations, le nombre de tests qui sont effectués. À ce stade, nous sommes encore dans une épidémie qui est croissante avec une augmentation du nombre de cas. De la même manière, nous observons depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations, je le disais, moins importante que lors des vagues précédentes, mais qui peut quand même devenir importante si nous n'y prenons pas garde. Donc encore un message de grande prudence, de grande vigilance. N'allons certainement pas considérer les choses pour ce qu'elles ne sont pas, en tout cas pas encore. Si les choses devaient évoluer, nous le dirions évidemment, et de toute façon ça se verrait puisque nous communiquons en transparence. Le seul message, c'est pour ne pas avoir à se poser ce type de questions, on se vaccine massivement.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, le nombre de malades hospitalisés hier était repassé au-dessus de la barre des 7000 et près de 1000 personnes se trouvaient en soins critiques.
Alors avec la crise sanitaire, beaucoup de difficultés économiques, malgré tout cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse au deuxième trimestre.
Oui, ce sont les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, qui ont le plus profité de cette embellie, moins 1,3% les concernant, une baisse qui s'établit à 0,5% toutes catégories confondues, Emmanuel Dutheil.
On peut en effet parler de forte baisse et cette baisse est notable chez les plus jeunes. Si on ne regarde que le mois de juin, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les demandeurs d'emploi jeunes sont plus proches du niveau de chômage d'avant-crise que les autres catégories de la population. Il y a malgré tout plus de 200 000 chômeurs en plus depuis le début de la crise. Si on prend cette fois tous les demandeurs d'emploi et donc maintenant ceux qui ont eu aussi une activité très réduite ces derniers mois, la baisse sur le deuxième trimestre est moins forte, mais elle permet de passer sous un seuil symbolique, notamment sous le seuil des 6 millions de chômeurs. Il y a aujourd'hui très exactement 5 984 000 chômeurs en France. Généralement, on considère que cette mesure est plus représentative de la tendance. Ce qui est sûr, c'est que la vague de faillite et l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi à redouter au début de la crise ne se sont pas produites grâce au gigantesque plan d'aide. Reste à savoir ce que donnera la reprise avec les nouvelles mesures mises en place en raison de l'envolée du variant Delta.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et malgré cette reprise qui se dessine, il y a des secteurs qui restent très impactés par la crise et qui peinent à se remettre, notamment celui du loisir.
Il est dorénavant nécessaire de présenter un pass sanitaire, ce qui complique bien sûr les visites. C'est ce que m'a expliqué Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attraction.
Les tendances aujourd'hui sont entre moins 15 et moins 50% suivant les sites. Évidemment, ce pass sanitaire, nous ne sommes pas forcément opposés. Nous sommes bien évidemment pour la vaccination. Mmh. Ce que nous contestons simplement, c'est cette mise en place précipitée au 21 juillet dans des sites qui sont par ailleurs souvent des sites d'extérieur, totalement sécurisés avec des protocoles qui ont démontré leur efficacité en 2020. Et avec des produits qui se consomment de manière impulsive, c'est-à-dire que les gens prennent la décision le matin ou la veille pour venir. Ceux qui viennent sont ravis de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup ne viennent pas et beaucoup de sites sont dans une détresse et une situation économique très compliquée.
Et vous vous faites insulter parfois par le public également, hein ?
Alors, on se fait effectivement insulter. On reçoit des messages très fleuris, nous disant qu'on est des collabos, que le pass sanitaire, c'est un scandale, que la vaccination, c'est un scandale. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Nous sommes pour la vaccination. Donc, nous sommes totalement délaissés et vraiment désespérés.
Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions, invité du journal de la mi-journée sur Europe 1. On l'appelle Nizza Bella et elle porte très bien son nom à la ville de Nice, sur la Côte d'Azur. Célèbre entre autres pour sa promenade des Anglais, intègre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été reconnue au titre de ville de villégiature d'hiver de la rivière à Thierry.
Et on en parle avec Muriel Mayette-Holtz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Théâtre National de Nice. Ça faisait 10 ans que Nice était candidate. Ça y est, ça aboutit enfin. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour vous ce soir.
Oh, c'est magnifique. Et puis c'est une juste récompense parce que le maire de Nice, Christian Estrosi, accompagné par Jean-Jacques Ayagon, ont travaillé merveilleusement pour que ce soit une réalité. C'est une ville d'une grande beauté. Qu'a réussi le mélange de son histoire et en même temps c'est une ville qui sait se réinventer. On est dans la couleur, dans la terre de Sienne, les ocres jaunes dans la vieille ville et on est dans une ville qui bouge et qui est très contemporaine aujourd'hui, très moderne. Et ça, c'est merveilleux.
Muriel Mayetholz, ça veut dire aussi, bien sûr, à terme, des retombées touristiques, économiques. C'est 30%, dit-on, de fréquentation touristique en plus généralement.
Mais j'espère, en tout cas, ce serait légitime parce que c'est une ville qui est coincée entre la montagne et la mer. Et là, je vous parle à une terrasse pour essayer de donner envie à tous vos auditeurs de me rejoindre.
mais on a envie de vous rejoindre, déjà.
c'est aussi... Non, vraiment, c'est merveilleux. Puis c'est une ville qui réussit sa transition écologique. Le maire a un grand projet pour allonger le poumon vert au centre de la ville, la promenade du Paillon. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre.
C'est aussi des retombées pour vous, pour la culture, pour votre théâtre ?
Alors oui, de toute façon, mais en plus le maire a des projets assez généreux pour le théâtre puisqu'on va ouvrir la saison prochaine un théâtre dans une église du XIIIe siècle. On a des projets, il a mis son nouveau mandat sous l'égide de la culture, donc c'est une ville vraiment qui est en pleine expansion et qui a beaucoup d'émotions encore à partager.
Nice, désormais donc intégrée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec nous, Muriel Mayetholz, la directrice du Théâtre National de Nice. Grand merci à vous, madame.
Bonne journée, bonne soirée à tous vos auditeurs.
Merci à vous.
Au revoir.
Vous savez qu'il y a 12 coups de canon qui ont été tirés depuis la colline du château pour fêter l'événement. Alors que ce soit à Nice ou ailleurs, peut-être possédez-vous une résidence secondaire. Gare aux mauvaises surprises, plusieurs villes ont décidé de tripler la taxe d'habitation concernant ces lieux de villégiature. Une hausse autorisée par la loi. Si le marché de l'immobilier y est tendu, les propriétaires concernés vont pouvoir s'attendre à payer par endroit jusqu'à 60% de plus, Maud Descamps.
Tout à fait, hein, c'est le cas à Lyon et à Bordeaux où la municipalité vient de voter une augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, des villes où il existe un manque de logements. L'objectif est donc de convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché. Audrey Hénoc est adjointe au maire à la mairie de Lyon.
Le premier objectif, c'est vraiment qu'un certain nombre de résidences secondaires, donc on en a environ 15 000, puissent repasser en résidence principale. Parce que pour nous, un logement, c'est avant tout le lieu où habite une famille ou une personne à temps plein.
Grâce à cette hausse, la municipalité devrait empocher 3 300 000 euros de plus par an. Et puis, il y a aussi de plus petites communes comme Saint-Julien-de-Chédon dans le Loir-et-Cher, 750 habitants, qui a augmenté cette taxe. Le maire Michel Leplat espère libérer des logements et faire venir des familles essentielles à la vie du village. Et
ça nous permet d'essayer de sauvegarder notre école. C'est pour ça qu'on a voulu aussi ramener cette équité un peu fiscale en disant, voilà, ben cet effort, tout le monde va le faire pour que la commune puisse continuer à bien vivre, quoi.
Sachez aussi que certains maires se mobilisent pour qu'une nouvelle taxe soit également appliquée aux logements vacants.
Maud Descamps.
Dans l'actualité internationale, cette explosion en Allemagne sur un site chimique à Leverkusen. Au moins une personne est décédée, 4 autres sont portées disparues. 16 salariés du site sont blessés.
Aux États-Unis, le début de la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier. À l'ouverture des travaux, son président, le démocrate Benny Thompson, a affirmé que l'assaut des partisans de Donald Trump visait à faire dérailler la démocratie.
Allez, de la musique pour terminer avec un retour. Et quel retour ? Celui de Stromae sur la scène musicale.
Et 8 ans après la sortie de son album au succès planétaire Racine Carrée, l'artiste très discret depuis devrait revenir avec un nouvel album dans quelques mois. Angèle Châtelier.
Stromae, roi des tubes, avait vendu 3 millions d'exemplaires de son dernier album Racine Carrée, sorti en 2013.
J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Pendant 2 ans, ensuite, il avait enchaîné les dates de concert partout dans le monde. Plus de 200 dans un rythme effréné. Tellement qu'à cause du surmenage et suite à une grave réaction à un traitement contre le paludisme, Stromae avait tout quitté, souhaitant faire une pause d'au moins 2 à 4 ans, disait-il à l'époque. 6 ans après, Stromae semble être prêt à faire son comeback et devrait revenir dans quelques mois avec un 3e album, le sien. Lui qui, malgré tout ces dernières années, a tout de même collaboré avec d'autres artistes comme Big Flo et Oli ou Orelsan, avec qu'il a partagé en duo. Ce retour tant attendu de Stromae donne aussi des ailes aux maisons de disques. Selon Le Parisien, les deux plus grandes, Universal et Sony, sont dans la course. Une prime d'1 million d'euros serait dans la balance des négociations.
Alors on danse.
Voilà, Stromae donc qui va revenir sur la scène musicale.
Et ça, c'est un chouette retour. Merci à vous, Sophie Tusson. On vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo à présent avec vous, Marlène Duret. Alors demain, quelques averses, où ça précisément?
Alors dans le sud-ouest pour commencer, parce qu'on va avoir des averses orageuses en provenance d'Espagne qui vont gagner le Midi-Pyrénées cette nuit. Et comme il y aura encore beaucoup d'humidité dans l'air au petit matin, eh ben, ça aura pour conséquence de laisser un ciel très nuageux à couvert dans cette région. Mais aussi sur une bonne partie de l'Aquitaine d'ailleurs. Le soleil percera plus ou moins en journée. Quant aux averses orageuses, à proprement dites, on les retrouvera demain matin du Languedoc aux Alpes et au Jura. Ça nous fait un petit quart sud-est. Et elles se maintiendront l'après-midi simplement au niveau des Alpes. Ça veut dire que sur le reste de la zone, le soleil sera de retour. D'autres averses à prévoir dans le nord du pays, elles semblent moins fréquentes comparées à celles d'aujourd'hui. Ça va concerner l'après-midi, une zone allant des régions du nord-ouest à la frontière belge en passant par l'Île-de-France. Et partout ailleurs, c'est pas si mal, une alternance de nuages et de soleil. Les températures un peu basse pour la saison, avec un minimum de 19 degrés à Cherbourg. Il fera 20 à 25 en général, avec 24 à Paris, 26 à 29 sur la façade est, et puis 27 à 33 quand on se rapproche de la Méditerranée. 33 degrés dans la ville où le peintre Paul Cézanne a passé sa vie, c'est-à-dire Aix-en-Provence.
Parfait, merci. À tout à l'heure, Marlène.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, je reçois le philosophe Michel Onfray. Il publie L'art d'être français aux éditions Bouquin. On va parler de ce moment, de la vaccination, de la montée des antivax et de politique, bien sûr. Michel Onfray sur Europe 1, dans 2 minutes.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h18, l'invité d'Europe Soir est philosophe. Il vient de publier L'art d'être français aux éditions Bouquin. Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Une première question d'actualité, vous êtes favorable au pass sanitaire. Quel regard vous portez sur l'opposition qu'il cristallise là en ce moment?
Je pense que moi, c'était plutôt, il fallait plutôt défendre le vaccin pour tout le monde. C'est une façon de dire, on n'impose à personne, mais si vous ne le faites pas, finalement, vous aurez des problèmes. D'où cette ubérisation de la police qui consiste à dire que les restaurateurs, les gardiens de piscine vont se transformer en policiers. C'est un peu n'importe quoi.
Vous-même, vous êtes vacciné?
Oui, bien sûr. D'abord, moi, j'ai eu le Covid. Et ensuite, dès que ça a été possible, je me suis fait vacciner parce que, je suis un élève, je suis un enfant de la République. Et à l'école, on m'a appris Pasteur, la sepsie, l'antisepsie, la génération spontanée, la rage, etc. Et je trouve assez sidérant qu'aujourd'hui, on délire avec les vaccins en imaginant que les médicaments ne sont pas là pour soigner, mais sont là plutôt pour tuer. Donc, je défends les vaccins, bien sûr.
Et justement, Michel Onfray, comment vous percevez ces rassemblements de plus en plus forts tous les week-ends, 166 000 le week-end dernier, anti-vax, mais pas que, dans les rues de France?
Je ne veux pas faire de prédiction, mais je pense que si Emmanuel Macron était anti-vax, il y aurait à peu près autant de gens dans la rue pour dire que le vaccin est nécessaire, qu'il faut les faire et qu'il faut les étendre à tout le monde, quoi. Ouais. Donc, je crois qu'il y a une espèce de mécontentement à l'endroit d'Emmanuel Macron qui fait qu'il cristallise. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a maintenant les anti-vax, c'est pas exactement la même chose. J'entends dire que c'est le retour des gilets jaunes, ce que je ne crois pas. Mais il y a un vrai mécontentement. Il y a eu un nombre considérable de gens qui se sont abstenus lors des dernières élections. Il y a un mécontentement, il se manifeste dès que c'est possible.
Et tout ça est lié pour vous.
Oui, il n'y a pas de ligne claire chez Emmanuel Macron. Ils sont en même temps, fait qu'à une époque, vous disiez pas de masque, et puis après, masque obligatoire, pas de passe vaccinal, et puis passe vaccinal. Une époque, le vaccin AstraZeneca était formidable, puis un jour, on nous dit, non, pas du tout, vous pouvez le prendre, puis le lendemain, on nous dit, si, vous pouvez le prendre à nouveau. Il y a juste à un moment donné, les gens ne croient plus Emmanuel Macron, ils disent, les complotistes sont très heureux de pouvoir dire, comment pourrait-on croire quelqu'un qui nous balade, qui nous trimballe depuis des années, mais enfin depuis des mois et depuis un an et demi maintenant.
Mais est-ce que cet acte d'autorité d'imposer une vaccination sans le dire, hein, comme vous l'avez dit, permet à une partie de la France de refaire société autour du devoir vaccinal finalement?
Vous savez, on ne crée pas une république avec un claquement de doigts, on recrée une république parce qu'elle est quand même pas en bon état, parce qu'on est un chef qui s'est cheffé, disons-le comme ça, c'est-à-dire parce qu'on est respectable et respecté. Quand on fait des choses qui du genre se faire photographier avec un doigt d'honneur aux Antilles, se faire filmer avec des youtubeurs qui font des galipettes dans l'Elysée, quand le président de la République dit « Oh putain », etc., il y a un moment donné où vous n'êtes plus crédible quand vous donnez des ordres. Le chef doit être au-dessus de tout ça, il doit être respectable pour être respecté. Quand il n'est pas respectable, il n'est plus respecté. Quand sa parole n'est plus respectée, c'est un peu n'importe quoi. Donc on ne dit pas « je refais une république comme ça en claquant les doigts, parce qu'on sait très bien que la république, c'est plus compliqué que ça à reconstruire. Il y a une espèce de post-68-ardisme, je dirais, qui consiste à dire que la liberté, c'est pouvoir de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. J'ai bien le droit. Souvenez-vous de Cyril Collard qui avait le sida et qui estimait qu'il avait bien le droit de coucher avec des gens sans préservatif. On confond, c'est pas la liberté, c'est la licence. La liberté, Rousseau disait que c'était l'obéissance à la loi quand c'est prescrite. C'est pas exactement la même chose. Et quand les gens revendiquent la liberté, ils se trompent, ils revendiquent la licence, c'est-à-dire le pouvoir de faire n'importe quoi. Donc je dirais aussi le pouvoir de violer, le pouvoir d'insulter, c'est une liberté. On marche sur la tête quand on estime que le caprice d'un enfant de 13 ans, ça s'appelle la liberté. Non, ça s'appelle pas la liberté, ça s'appelle la licence. Et nous sommes dans un régime de licence, sûrement pas dans un régime de liberté.
Michel Onfray, quel regard, que pensez-vous du niveau du débat public en France actuellement ? Le sénateur Claude Malhuret disait dans l'hémicycle de la Chambre haute, comme Zorro, Facebook et Twitter sont arrivés, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook.
Il n'a pas tort, mais si on est passé de ça à ça, c'est parce que lui a fait partie d'équipes politiques du côté de Chirac, si je me souviens bien à l'époque, qui ont quand même détruit la société française. Donc Malhuret ferait mieux de se taire, parce qu'il a bien le droit de dénoncer quelque chose, mais quand on a contribué soi-même à la destruction du pays, on ne s'en vient pas déplorer la destruction. C'est-à-dire que des gens comme Mitterrand, comme Chirac ont détruit l'école républicaine, donc évidemment il n'y a plus d'école, il y a des pédagogues. Et quand on n'enseigne plus rien à l'école, sauf des bêtises, l'art de vider ses poubelles ou de savoir ce que c'est qu'une transition écologique, et bien évidemment qu'on n'enseigne plus les vaccins, de sorte que les gens vont voir ce qu'est le vaccin sur Internet, et comme sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. L'école des gens, aujourd'hui, c'est plutôt Internet que la République.
Michel Onfray, il y a eu l'allocution du président de la République à la mi-juillet. Quel doit être, à votre avis, si vous pouviez le conseiller éventuellement, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce qu'il doit faire à la rentrée pour rassembler ce pays?
Si on joue le jeu, je dirais démissionner, quoi. Démissionner, remettre son mandat en jeu, expliquer qu'on va refaire une république, arrêter d'être là pour faire le jeu des banquiers, mais pas des Français. C'est tout qui est à revoir, déjà. Il a perdu toutes les élections qu'il a pu faire depuis qu'il est président de la République. À chaque fois qu'on perd une élection dans le régime républicain du général de Gaulle, on démissionne. Lui, quand il perd une élection, il reste. Et que ce soit les municipales, que ce soit les régionales, que ce soit des élections intermédiaires, il n'a pas réussi à obtenir une seule région aux dernières consultations électorales. On voudrait dans ces cas-là que soit le chef de l'État démissionne, soit il change véritablement de politique. Donc il change de Premier ministre, il fait la politique que les gens demandent, la République, c'est ça. Le peuple n'est pas au service du chef de l'État. Il n'a pas compris que c'était le chef de l'État qui était au service du peuple. Et si j'avais quelque chose à lui conseiller, ce serait de dire « Écoutez ce que le peuple vous dit, ça fait bien longtemps qu'il ne veut plus de vous, allez-vous-en ».
Allez, autre sujet, Michel Onfray. Vous avez pris et récemment la défense de la messe en latin dans une tribune au journal Le Figaro. Pourquoi l'athée que vous êtes tient-il tellement à la défendre ?
Parce que je défends tout ce qui est patrimonial et que il y aurait par exemple une basilique du 9e siècle qu'on voudrait détruire pour y installer une tour d'immeuble, que je défendrais cette église, justement parce que je suis athée et que je suis d'une civilisation dans laquelle il y a du patrimoine. La messe en latin est un patrimoine. Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas bigot, je ne suis pas calotin, je ne cherche pas Dieu, je n'ai pas envie d'être touché par la grâce, je ne cours pas après ça, je suis athée, très content d'être athée. Mais je défends tous les patrimoines de la même manière
quand
que
je défendrai le... Quand vous répétez régulièrement notre civilisation judéo-chrétienne, c'est ça ? C'est notre culture commune ?
C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes gréco-romains et judéo-chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a eu Athènes, puis il y a eu Rome, puis il y a eu Jérusalem, et puis il y a eu, disons Paris si on veut. C'est une culture, l'Europe, et cette culture c'est la mienne. C'est la culture qui fait que... on a eu Dante, on a eu Cervantes, on a eu Molière, on a eu Rabelais, on a eu Montaigne, on a eu Voltaire, on a eu mais aussi Lully, mais aussi Bach, mais aussi Mozart, et ça aussi c'est patrimonial.
Donc vous pourriez encore écrire aujourd'hui ce fameux traité de la théologie d'il y a très longtemps ?
Ah mais bien sûr, je ne retire aucune ligne à mon traité de la théologie, j'ai d'ailleurs écrit dans le traité de la théologie que j'en avais contre les agenouilleurs et pas contre les agenouillés. Donc moi, quelqu'un qui croit en Dieu ne me gêne pas. Quelqu'un qui croit en Dieu qui me dit que je suis obligé d'y croire et de croire au même Dieu que lui, alors ça me gêne. Donc c'est le prosélytisme qui me gêne. La messe en latin n'est pas une messe prosélyte. Tant qu'on ne vient pas me chercher pour y assister, je défendrai la messe en latin. Vous savez, tout le monde se gausse de ce mot de Voltaire, enfin, attribué à Voltaire, on dit « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai tout le temps pour que vous puissiez exprimer votre propos ». Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Moi, je dis, effectivement, je ne suis pas d'accord avec vous, encore que, je ne suis pas croyant, je n'ai pas la foi, mais pour moi, la messe n'est pas une occasion de rencontrer le Seigneur, auquel je ne crois pas, mais c'est l'occasion de mettre en place un rite qui existe depuis 2000 ans. Ouais. Donc, il faut défendre tout ce qui relève du patrimonial, de la même manière que je défendrai la bouillabaisse, ou que je défendrai... une fête folklorique dans le Pays Basque.
Mais est-ce que c'est aussi ce délitement finalement de notre héritage judéo-chrétien qui provoque aujourd'hui des tensions en France ?
Oui, parce qu'il n'y a plus de point de repère. On détruit les villages, on détruit les communautés sous prétexte qu'elles sont fascistes, pétinistes, vichistes. Le campagnard, c'est un plouc. Regardez toutes les publicités qui mettent en scène qui permettent de vendre des fromages, et tous des crétins bien blancs, des abrutis ahuris, bedonnants. Donc il y a une espèce de haine de tout ce qui est rural, de tout ce qui est provincial, de tout ce qui est ancien, ancestral, de tout ce qui est patrimonial, justement, parce qu'il faudrait être moderne. Il faudrait être moderne, c'est-à-dire cosmopolite, universaliste, de nulle part, de partout, connecté, branché, etc. Donc effectivement, quand on veut un homme nomade, eh bien, on a un homme sans racines. Ça veut dire qu'intellectuellement, on a aussi des hommes sans racines, c'est-à-dire sans fondement intellectuel.
Je me sens en pleine forme encore, Michel Onfray. Hein. Une question sur 2022. Rapidement, Éric Zemmour envisagerait de se présenter. Est-ce que vous approuvez sa démarche ? Je sais que vous lui parlez souvent, vous le voyez. Vous en avez parlé avec lui ?
Oui, on en a parlé. Moi, je suis un homme de gauche, donc je lui ai dit qu'il faudrait qu'il muscle son bras gauche et qu'il y ait un peu plus de peuple dans son projet, parce que je trouve que quand on veut rassembler les Français, on ne peut pas mobiliser la moitié des Français, et encore une partie de la moitié des Français. Moi, je suis assez gaullien et de gauche, et je pense qu'on peut très bien être dans une logique de rassemblement, mais il faut rassembler tout le monde. Donc les concessions faites à la droite, oui, mais il faut faire des concessions à la gauche aussi.
Il sera candidat pour vous ?
Bah, ça paraît assez clair. Je sais pas, il y a eu un reportage dans Paris Match qui donne les noms, les gens, qui fait quoi. Il est en train de prendre des cours d'accélérer des
économies. Il vous a dit « j'y vais » ?
Non, il n'a pas dit. Non. Non, mais je ne suis pas assez intime pour qu'il me le dise. Mais il a dû le dire à quelques-uns. Si Loïc Le Floch-Prigent donne des leçons d'économie à Éric Zemmour, c'est qu'il a l'intention d'y aller, je pense.
Michel Onfray, dernier livre paru, « L'art d'être français » aux éditions Bouquin. Grand merci à vous, Michel.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, les titres de l'info, puis les grandes voix. On va parler des nouveaux chiffres du chômage, mais également des conséquences économiques de la mise en place du pass sanitaire. Vous prenez la parole, vous êtes les bienvenus, hein, vous le savez, 39-21. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. L'ancienne garde des Sceaux était visée par une enquête concernant ses prestations de conseil en tant qu'avocate du groupe Nissan-Renault entre 2010 et 2013, un groupe alors dirigé par Carlos Ghosn. Convaincre les Français toujours et encore de se faire vacciner, Jean Castex et Olivier Véran étaient sur le terrain aujourd'hui. 3 millions de rendez-vous seront ouverts dans les 10 prochains jours, a précisé le ministre de la Santé. Une embellie sur le front de l'emploi, nouvelle baisse au deuxième trimestre selon les chiffres du ministère du Travail. Le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire n'ayant pas du tout travaillé, a reculé de 1,3%. Toutes catégories confondues, il a baissé de 0,5%. 7 médailles en tout pour la France. Aux Jeux de Tokyo, la judoka Clarisse Agbenienou remporte l'or chez les moins de 63 kilos. Et puis du bronze au taekwondo pour Althea Lorrain chez les moins de 67 kilos. Une explosion en Allemagne sur un site chimique à Leverkusen. Au moins une personne est décédé, 4 autres sont portés disparus. 16 salariés du site sont blessés. Puis l'ouverture aujourd'hui aux États-Unis d'une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier à Washington. Une attaque qui visait à faire dérailler la démocratie, a déclaré le président démocrate de cette commission.
Merci Sophie Tussaud. Nouvelle édition complète bien sûr à 19h. La météo à présent avec vous, Marlène Duré. Marlène, des nouvelles pluies arriveront par le sud-ouest dès ce soir.
Hein. Oui, tout à fait. La nuit s'annonce arrosée dans le sud-ouest jusqu'à l'Auvergne. Averses orageuses en provenance d'Espagne. Elles s'évacueront progressivement vers les Alpes demain en cours de journée. Donc l'après-midi, il fera à nouveau beau de la vallée du Rhône à la Méditerranée. En revanche, le temps restera bien nuageux à proximité des Pyrénées. Et puis, il faut s'attendre encore à quelques averses moins nombreuses qu'aujourd'hui hein, dans le nord et le nord-ouest. Le reste du pays, bon, on va profiter profiter d'une journée calme, plutôt agréable. Du côté des températures, c'est un petit peu frais, hein, évidemment, pour une fin juillet. Les maximales ne dépasseront pas les 19 à 26 degrés, sauf près de la Méditerranée, où l'on prévoit toujours 27 à 33.
Merci beaucoup, Marlène. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre à présent le débat des grandes voix de ce mardi soir avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Bonsoir Jeannick.
Bonsoir Thierry.
Et puis Roland Guérol, directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Et puis bien sûr vous au 39-21, vous intervenez si vous le souhaitez. Le nombre de chômeurs a enregistré, on le disait à l'instant, une baisse significative de 1,3%. Au deuxième trimestre en France, soit 50 600 inscrits en moins, selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce matin. Au total, ce sont 3 075 000 personnes qui sont actuellement sans emploi en catégorie A, bien moins que prévu. Jeannick Halimi, est-ce que les Cassandres ont eu tort? Est-ce que l'explosion du chômage, finalement, n'arrivera pas?
Alors là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Ah oui, absolument. Pardon de cette réponse un peu mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que les chiffres sont plutôt rassurants, mais ils cachent aussi beaucoup de fragilité. Lorsqu'on parle de catégorie A, sans rentrer bien sûr dans des précisions trop techniques, ce sont des chômeurs à 100%. Or, on sait très bien que pendant cette crise, le chômage partiel, qui a été indemnisé abondamment, a en revanche prospéré, si je puis dire. Donc, il y a énormément de chômage partiel. C'est mieux, bien sûr, que du chômage total. Ça, c'est une chose pour la photographie. La deuxième chose aussi qui est inquiétante, c'est la hausse du chômage de longue durée. Ouais. De longue durée, ça, ce sont deux éléments dans la photographie qui sont quand même, qui relativisent la bonne nouvelle, j'allais dire. Et puis, on va peut-être avoir le temps d'en parler. Que va-t-il se passer une fois que les aides, puisque bien sûr ce sont des aides publiques, hein, d'ailleurs d'État, départementales et régionales, qui ont permis de pour le moment d'éviter la grande faillite que certains prédisaient. Combien de temps ça va pouvoir durer? Là, c'est un gros point d'interrogation. Et évidemment, combien de temps va durer l'épidémie? C'est d'ailleurs le premier point d'interrogation.
Pour vous, donc, c'est un trompe-l'œil pour l'instant.
Un trompe-l'œil, je ne peux pas dire ça, parce que de fait, les chiffres sont les chiffres et ils sont vrais, ils sont pas truqués. Et encore une fois, c'est mieux d'avoir du chômage partiel que du chômage en totalité. Mais il ne faut pas, comme on dit, injurier l'avenir. Et le pire comme le mieux sont possibles.
Roland Guérol, tout va se jouer dans ces cas-là dans les prochains mois. C'est ce que dit Jeannick finalement. C'est ce que vous pensez également?
Oui. En soulignant quand même encore que c'est des bons chiffres. Hein, beaucoup de pays aimeraient bien en être là. L'économie française, c'est assez bizarre à dire. Ouais. L'économie française va bien. Elle a bien redémarré dans beaucoup de secteurs. Et c'est comme ça qu'on a des chiffres de chômage qui sont relativement bons.
Alors, ça veut dire quoi, pardon, que les aides ont joué finalement un rôle essentiel et qu'elles ont mieux fonctionné que prévu finalement?
Tout à fait essentiel. Tout à fait essentiel. On ne serait évidemment pas là sans les aides de l'État. On a été sous perfusion de l'État. Il reste qu'on n'en est quand même pas revenu à avant la crise. Il y a 200 000 chômeurs de catégorie A de plus qu'avant la crise, donc on n'est pas encore revenu à un taux qui serait satisfaisant. Et deux, en effet, comme vous le dites, que tout va dépendre des mois suivants. Moi, ce qui me fait par exemple le plus peur pour le chômage, c'est le moment où les URSSAF vont présenter leurs factures aux petites entreprises. Parce que pour le moment, il y a non seulement les aides de l'État, mais il y a le moratoire sur l'URSSAF. Et ça, on sait que pour les entreprises, ça va être très, très dur. Et puis j'ajoute une chose, assez bizarrement, ce que nous disent les entreprises qui ne recrutent pas bien en ce moment, c'est qu'elles ne trouvent pas assez de main-d'œuvre qualifiée.
Bien sûr.
C'est un vieux problème français, mais qui se pose terriblement dans les cas de crise. Il y a des endroits où on souhaite embaucher, et tout le monde sait que dans la restauration c'est le cas par exemple, et où les patrons ne trouvent pas de gens, de salariés qui veulent venir pour le moment. Donc c'est bien, mais on a quelques ombres au tableau qui vont sans doute se préciser dans les mois qui viennent, même si, encore une fois, l'économie, elle, semble donner de bons signes.
Ouais. Jeannick en parlait il y a quelques instants. Il y aura la levée progressive des aides hein, entre juin jusqu'au mois d'août. Les sociétés qui ont tenu bon en 2020 ne survivront pas toutes. Selon une note d'Altares publiée en mars dernier, 63 000 entreprises déjà affaiblies avant la crise résisteront difficilement à l'arrêt des aides. Ça veut dire que c'est quand la marée va descendre finalement qu'on va voir un peu les morts sur la plage entre guillemets.
Malheureusement, oui, c'est ce qu'on disait, comme le soulignait également Roland Cayrol, le quoi qu'il en coûte ne va pas durer des années et des années. Alors, si vous voulez, ça peut encore perdurer, malheureusement, si la crise sanitaire se perpétue dans l'être également. Mais cet accompagnement d'aide peut effectivement servir encore quelques mois d'amortisseur, parce que le gouvernement, même si Bruno Le Maire dit qu'effectivement il y a une date limite, ou en tout cas elles sont déjà en train de s'éteindre, hein, ces aides-là, tout le monde sait, surtout dans une année électorale, et personne n'a intérêt, si malheureusement encore une fois la crise sanitaire se poursuit, d'arrêter ces aides. Ouais. Deux autres éléments, pardon, très rapidement. L'incertitude en tant que telle, c'est-à-dire que les interrogations que tout le monde se pose, que nous posons aujourd'hui sur la crise sanitaire, ouais, même si elle ne se vérifie pas dans les mois qui viennent, crée quand même, on le sait, dans le contexte économique et bien sûr social, une incertitude qui pénalise les affaires.
Ça veut dire quoi ? Que les patrons n'embauchent pas, les TPE, les PME n'osent pas forcément
passer des
embaucher.
Exactement, et puis passer des commandes, tout simplement, donc avec, ouais, avec le cycle infernal que ça... Que ça entraîne. Et une autre aussi, très rapidement, une autre question qui se pose, on le sait, c'est la réforme du chômage. Le gouvernement, Madame Borne encore l'a répété, je crois que c'était ce matin, elle devrait s'appliquer, donc avec des malus pour les contrats courts, ça c'est le côté, on va dire, protecteur, mais aussi des protections d'indemnisation pour les chômeurs moins longues. Et cette réforme pourrait s'appliquer si la situation va mieux. Ouais. Voyez-vous, donc il y a aussi cet élément-là de réforme publique, de politique publique qui dépend et du chômage et de la crise.
Avant de marquer une pause, Roland Cayrol, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce que disait Jeannick.
Non, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Je trouve simplement...
Moi, mais sur l'État, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas où on va et ça pèse.
Moi, je suis plus optimiste sur les carnets de commandes. Je crois qu'ils ont envie de travailler tous. Et la consommation et des ménages et des entreprises semble plutôt boostée pour le moment. C'est déjà depuis le 1er juillet, les aides de l'État, le remboursement de 70% du salaire a été ramené à 60%. Ça ne semble pas provoquer de grands troubles, ni chez les uns, ni chez les autres, pour le moment. Mais il est évident que ça va baisser. Et surtout, moi je crois, on a aidé toutes les entreprises qui le demandaient.
Bien sûr.
Dans ces entreprises, il y avait des entreprises moribondes. C'est pour ça que cette année 2020, on a beaucoup moins de faillites d'entreprises qu'avant. C'est assez curieux. Mais ils ont bénéficié de l'aide de l'État, ils n'ont pas fermé. Et ceux-là, ils auraient dû fermer en 2020, ils fermeront en 2021, je dirais, probablement, quoi qu'il arrive.
Allez, chômage, trompe-l'œil ou vraie reprise, on en parle et on continue à en parler avec nos grandes voix ce soir et également avec vous au 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on continue à parler chômage ce soir avec nos grandes voix, avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Roland Cayrol, directeur de recherche au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, bien sûr avec vous au 39-21. Bonsoir Bastien.
Bonsoir.
Bastien, vous nous appelez de Bretagne.
Oui.
Sur cette baisse du chômage annoncée à la mi-journée, comment vous réagissez ?
Vos interlocuteurs ont partiellement répondu à mes questions. En fait, moi je pense qu'en effet, c'est un petit peu quand même en trompe-l'œil parce qu'on était sur un trend juste avant le Covid qui aurait dû nous mettre peut-être aujourd'hui autour de 7%. On était à 7,9% avant le Covid, donc c'était déjà... On avait une bonne situation qu'on est loin d'avoir rattrapée. Et ensuite, bien malin qui peut nous prédire ce qui va se passer dans les mois qui viennent, puisque pour moi, il y a trois phénomènes, mais ils ont été évoqués. Il y a un, le fait qu'on a porté à bout de bras un certain nombre d'entreprises qui allaient déjà mal. On a évité des faillites, on sait qu'on a eu moins de faillites l'année dernière qu'en 2019. Tout ça, c'est très bien. Avec les aides, il y a eu le chômage partiel. Mon fils travaillait à plein temps et a été déclaré en chômage partiel, ce qui a arrangé bien l'entreprise. C'était une bonne chose. Mais donc, c'est faux parce que des entreprises, finalement, allaient mal. Et maintenant, avec la baisse des aides... le retour à la réalité, il risque d'y avoir des morts. D'un autre côté, deuxième phénomène, moi je constate que dans tous les domaines que je connais un peu, ça va bien. Il y a une espèce d'envie de consommation. Il y a des choses que tout le monde voit, les terrasses archi pleines, mais tout. Il y a une envie de consommer. Donc ça, c'est très positif. C'est autant psychologique que économique. Il y a du rattrapage. il y a de l'épargne et il y a du rattrapage aussi, ce qui explique par exemple que les soldes n'ont pas super bien marché parce que plein de gens ont déjà acheté énormément au mois de juin avant les soldes, enfin voilà. Mais surtout la troisième chose, c'est l'inconnu sur la crise sanitaire et le confinement. Alors tout ça, trois phénomènes cumulés en début de campagne pour les présidentielles, c'est extrêmement inquiétant. Et voilà, donc j'entends bien, hein, je pense qu'il faudrait être très très, très très malin pour pouvoir dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement doit faire le maximum pour maintenir les aides qui ont existé. Voilà.
Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. C'était passionnant. Merci à vous, Bastien, qui nous appelait de Bretagne. Jeannick Halimi, c'est vrai que Bastien vient de soulever une vraie question. Et la rentrée, on est à 10 mois maintenant moins de la campagne présidentielle. Sans doute que Emmanuel Macron sera à nouveau candidat.
Oui.
La rentrée va être difficile pour lui, malgré ses quelques bons signaux, ses bons chiffres.
Bah, la rentrée va être difficile pour tout le monde et pour tous les hommes et les femmes politiques, mais surtout effectivement pour l'exécutif, parce qu'encore une fois, pour nous répéter très très vite, la crise sanitaire, on attend quand même un pic, quelle que soit la hauteur du pic, hein, peut-être pas les pics du début du premier confinement, mais
et pas aussi dramatique.
Un pic au mois d'août, et sur le plan économique et donc social et donc politique, il y a énormément de nuages.
C'est ça.
Je voudrais juste quand même rappeler que depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, mais en tout cas quelques jours, il y a de multiples enquêtes qui viennent de la Banque de France, qui viennent de la BCE, qui viennent du CAE, c'est-à-dire les experts économiques proches de Matignon, qui viennent d'anciens conseillers économiques de l'Élysée, qui estiment qu'on est entré dans un Covid long, qu'on ne parle plus d'épidémie, qu'on ne parle plus de pandémie, mais qu'on parle maintenant d'endémie. C'est-à-dire qu'il va falloir faire avec ce climat d'incertitude pendant des mois et des mois, avec les questions que nous posons tous en ce moment, mais avec à la clé, encore une fois, est-ce que tout ça ne va pas déboucher sur du chômage et sur un creusement des inégalités, n'est-ce pas ? Avec les problèmes sociaux et les mobilisations qu'on voit déjà dans la rue, là, certes, c'est sur le pass sanitaire et la vaccination, mais si ça se gilet jaunise, c'est-à-dire si se greffe à cela des mécontentements plus économiques et sociaux, on risque de déboucher sur une crise sociale importante bien sûr, et politique, évidemment.
Donc, vous êtes d'accord avec ça, hein ?
Emmanuel Macron, effectivement, je termine là-dessus, est sous pression. Sous pression.
Roland Carrel, vous êtes d'accord avec ça ? L'incendie peut reprendre à tout moment ?
Oui, je ne suis pas sûr de ça. Ce n'est pas dans les moments de problèmes sociaux graves qu'on trouve les mouvements sociaux les plus importants. En général, dans l'histoire de ce pays, c'est plutôt quand ça repart plutôt bien. Là, les inégalités, elles ne vont pas se creuser. Elles se sont creusées pendant la période Covid de façon considérable. Et même s'il y a une hausse du chômage, ça n'est en général pas favorable aux mouvements sociaux. Ce que je crois politiquement, c'est que ça va être compliqué pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, et pas forcément spécialement pour Macron. Regardez, il y a eu des critiques sans arrêt depuis un an et demi sur la gestion du pouvoir. Parce que c'est au pouvoir qu'on s'en prend quand ça ne va pas, au café du commerce, comme quand on répond aux sondeurs. Mais en fait,
ou à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Quand elle se réunit, oui. Mais franchement, sur cette année et demie, Macron a repris 12 points de popularité positive. Ça veut dire qu'il y a aussi une majorité de gens qui s'expriment, qui disent que finalement, il s'en est pas mal tiré. Et s'il continue comme ça, au contraire, ça pourrait l'amener, pour peu qu'en effet, on voit quand même un peu la sortie du tunnel, ça pourrait l'amener à avoir, parce que les gens, ils comparent toujours ce qu'ils ont avec ce qu'ils pourraient avoir. Et parmi ceux qu'ils pourraient avoir, on ne voit pas de solution miracle. Donc, ce n'est pas forcément une catastrophe pour Macron.
Un mot rapide pour conclure, Jeanne.
Non, un mot très rapide. On parle quand même de, si ça va mieux, il y a une extinction même progressive des aides. Et il y a quand même une grande menace. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous dire que Macron va perdre la présidentielle. Je n'en sais rien. Je dis qu'il est sous pression. La menace, je le répète, c'est que c'est ce qu'on appelle ces petits patrons, très rapidement. Les restaurateurs ou les patrons
bien
de théâtre.
Bien sûr,
ces gens qui risquent de ne plus être aidés ou moins aidés pourraient grossir tout de même, descendre dans la rue et grossir les cortèges.
Mais on les réaidera à ce moment-là. On les réaidera. Vous n'imaginez pas qu'en période préélectorale,
le
pouvoir va laisser faire.
Non, mais peut-être. Mais il n'empêche qu'il faudra peut-être quand même qu'ils descendent dans la rue pour se faire écouter. Et c'est quand même ça crée un certain désordre politique et donc électoral.
Allez, restez avec nous, on continue à parler d'économie justement dans un instant, et notamment des conséquences économiques, là direct une semaine après la mise en place de ce pass sanitaire. A tout de suite sur Europe 1. 18h50, la suite de nos grandes voix avec ce soir Jeannick Halimi du Parisien et avec le politologue Roland Kayrol. Je voudrais qu'on parle de l'instauration du pass sanitaire, c'était mercredi dernier, qui touche de plein fouet donc les lieux de loisirs, les parcs d'attractions voient leur fréquentation diminuer drastiquement, également les salles de sport, les cinémas. Ça met, on l'a entendu d'ailleurs dans le journal de 18h, ça met en colère les chefs d'entreprise, les responsables de ces parcs ou de ces salles de cinéma. C'est dramatique finalement, depuis une semaine, les gens ne vont plus dans ces lieux de culture parce que obtenir un pass sanitaire, c'est trop compliqué. Jeannick Halimi.
Alors, pas pour tout le monde. Évidemment, on aurait préféré que ce soit la liberté de déplacement totale, comme on a pu le connaître il y a encore deux ans. Maintenant, nous, on a fait paraître, par exemple, une enquête ce matin qui montrait que les directeurs de musées souffraient beaucoup
s'en
moins.
S'en sortent bien, mais mieux.
Voilà, en tout cas, mieux, moins mal.
Que les parcs d'attractions.
Exactement. Et même les parcs d'attractions, ça dépend
des cas. C'est quand même une baisse de moins 70%.
Ça dépend.
Avec des salariés qu'il faut quand même payer, et avec c'est un moment de l'année où finalement les gens sont attendus dans ces parcs d'attractions.
Non, mais c'est vrai, c'est dur. C'est pour ça que je suis quand même, pour reprendre notre petit débat de tout à l'heure, un peu plus pessimiste, sans l'être à 100%, hein, que Roland Kayrol sur une colère qui pourrait se greffer à une autre. C'est sûr, mais...
Roland Kayrol, la semaine prochaine va entrer le pass sanitaire obligatoire sur les terrasses, dans les restaurants. Ça peut faire mal à ce moment-là, parce que les restaurateurs, on va les entendre.
Écoutez, ça peut faire du bien d'un côté, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir se servir dans leur passe sanitaire pour vivre à peu près normalement.
Ouais.
Et tout de même, ça risque d'être une large part de la population. Et puis, il y a ceux qui vont en effet râler de plus en plus, parce qu'ils n'en ont pas, et parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'en veulent pas. Et là, on est devant une fracture qui est à ce point inattendu, et qui est une fracture qui n'existe dans aucun autre pays d'Europe. La résistance au pass sanitaire atteint des chiffres d'opinion ici, que les autres ne comprennent pas. Nos amis italiens à côté ont 10 fois moins de gens.
Et pourquoi? Comment vous l'expliquez?
Je ne sais pas, sinon par un trait d'humeur nationale qui est que... On grogne, a priori, ça, on n'est pas d'accord, que le pouvoir nous emmerde, qu'on n'a pas confiance. Et puisqu'on n'a pas confiance...
Si on n'a pas confiance, c'est parce qu'il y a défaut d'information, il y a défaut de pédagogie.
Oui, moi je suis absolument frappé, parce que nous vivons dans l'information tout le temps, nous savons des tas de choses sur ce virus, ces vaccins, etc. Et je suis très frappé par le fait qu'un très grand nombre de gens ne savent pas, disent des choses sur le vaccin qui sont évidemment fausses, ils le croient parce qu'ils n'ont pas entendu ce que c'était vraiment. Encore une fois, on n'a pas eu de vraie campagne d'information nationale forte, et d'autre part des campagnes ciblées sur les personnes âgées. Nous sommes les seuls à avoir 21% de plus de 75 ans qui ne sont pas allés se faire vacciner, ni auprès des jeunes. On n'a pas de campagne ciblée non plus. Et je crois que c'est d'abord un problème d'information. Après, il y a évidemment des gens qui sont contre le vaccin, mais je dirais que ça c'est probablement entre 6 et 8% seulement. Ça ne poserait pas de graves problèmes pour une vaccination de masse. Mais tous ces gens qui ne sont pas dans le coup, qui ne savent pas, qui préfèrent attendre d'être sûrs, qui ne sont pas absolument sûrs de bénéfices par rapport au risque, c'est ça qui est une espèce de caillou dans la machine.
Ouais. Jeannick Halimi, pour revenir aux restaurateurs, ils ont été beaucoup aidés pendant ces mois de crise sanitaire. Est-ce que ce serait justifié qu'on les entende la semaine prochaine, finalement? Est-ce que ce n'est pas donnant-donnant, finalement?
Voilà. Qu'on les entende, je vous prie de m'excuser.
Sur l'obligation du pass sanitaire la semaine prochaine, on va bien sûr les entendre beaucoup. Dans la mesure où on les a aidés pendant des mois et des mois, est-ce que ce n'est pas finalement légitime qu'ils rendent un peu la monnaie de la pièce?
Oui, bien sûr. En plus, il y a eu... C'est compliqué.
Mais
vous avez raison. Alors attention, les salariés ont été aidés, ça c'est sûr, avec le chômage partiel.
Ouais.
Il y a eu les fonds de solidarité et les prêts garantis. Maintenant, pour aller dans votre sens, il y a eu quand même, malgré ce que dit une partie de l'opposition, il y a eu consultation. En tout cas, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu consultation entre Emmanuel Macron, M. Griset, certains ministres et pratiquement toutes les fédérations ainsi que les groupes politiques. Donc, ils ont été consultés. Maintenant, ce à quoi je voulais en arriver, si, comme Roland Cayrol le pense, il n'y a pas cette coagulation ou cette coalition des mécontentements dans la rue, il y a quand même un autre test en grandeur nature qui aura lieu au mois d'avril ou au mois de mai, qui auront lieu, ce sont les élections présidentielles. Et là, même si les petits patrons qui auront rendu ou pas leur pièce, enfin la monnaie de leur pièce, ne manifestent pas, on sait que alors qu'ils ont voté, en tout cas au second tour pour Emmanuel Macron et en grande partie au premier tour, même s'ils ont voté en 17, hein, en 2017 pour Monsieur Fillon, certains ont voté parmi ces professions-là pour Emmanuel Macron. Même si ces gens-là ne descendent pas dans la rue dans les semaines qui viennent, ils pourraient quand même avoir un verdict au moment des urnes et Emmanuel Macron souffrir un peu plus sur cette catégorie-là d'électeurs qu'en 2017.
Roland Cayrol, réaction à ce que dit...
Vous savez, il est absolument impossible de prévoir une élection présidentielle, même sans pandémie, à 9 mois de l'échéance. Quand vous regardez tous les sondages de toutes les élections présidentielles depuis 1965, qu'on demande 9 mois avant aux Français pour qui ils veulent voter, ils mettent comme deux premiers des personnes qui, 9 mois après, pour l'un des deux, ne sera pas là. Il y a donc toujours quelque chose qui se passe dans la dernière ligne droite, toujours. Les Français ne s'intéressent vraiment à la présidentielle qu'à partir de novembre-décembre, et la cristallisation des votes se fait en général au milieu du mois de janvier. On est vraiment loin du compte, donc je ne sais pas.
Allez, on aura le temps d'en reparler longuement. Merci à vous, Jannick Halimi du Parisien.
On peut émettre des hypothèses.
Tout à fait.
On reviendrait pour ça. Tout à fait. On est toujours prêt à venir en parler avec vous.
Jannick Halimi du Parisien et le politologue Roland Cayrol, vos grandes voix ce soir. Merci à vous deux.
Merci.
Très belle
Merci.
Soirée et bonnes Merci. Vacances pour certains.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.